Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Au Mali, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta a officiellement déclaré ce lundi vainqueur de l'élection présidentielle par la présidente de la Cour constitutionnelle Manassa Danioko. Une décision sans appel. Le chef de l'État malien entamera son second mandat de 5 ans le 4 septembre. Les résultats définitifs du scrutin, le président Ibrahim Boubacar Keïta a obtenu 67,16% des suffrages lors du second tour le 12 août pour 32,84% à l'opposant Soumaïla Cissé, un ancien ministre des Finances qui n'a jusqu'ici pas encore reconnu sa défaite. Les partisans du chef de l'État attribuent sa victoire aux erreurs du candidat de l'opposition pendant la campagne. Plus de détails avec le correspondant de VOA Afrique à Bamako, Kassim Traoré.
Le résultat de Ibrahim Boubacar Keïta est le fruit de 5 ans de travail. Une concrétisation qui, selon ses partisans, n'est point une surprise. Ibrahim Yago.
En réalité, au lieu de se concentrer sur l'essentiel et à faire campagne, ils se sont appuyés essentiellement à placer des attaques et aller dans des sujets non essentiels pour les Maliens. Donc la communauté internationale et les observateurs nationaux ont salué cette élection comme étant fiable, crédible et transparent. Bien entendu, il peut y avoir par moments des imperfections mineure ça et là, mais ça n'entame pas la crédibilité générale de cette élection.
Un supporter du président Ibrahim Boubacar Keïta au micro de Kassim Traoré à Bamako, au Mali. Nigeria, au moins 10 personnes ont été tuées dans deux attaques de Boko Haram au cours du week-end dans le nord-est du pays, région en proie aux violences du groupe djihadiste depuis plus de 2 ans. Samedi soir, des combattants sont arrivés par camion dans le village de Maerari, à 10 km de la ville de Monguno, dans l'état de Borno, et ont commencé à tirer et lancer des grenades. La veille au soir, 4 agriculteurs ont été abattus à la périphérie de la capitale de l'état de Borno, Maïdougouri. Afrique de l'Ouest toujours, multiples hommages à travers le monde après le décès samedi de Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU et prix Nobel de la paix. Le Ghana, son pays natal, entame une semaine de deuil. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
De nombreuses voix ont rendu hommage à Kofi Annan partout dans le monde. Ici, aux États-Unis, Barack Obama, l'ancien président américain, a salué sa mémoire. Ainsi que Nikki Haley, l'ambassadrice américaine à l'ONU. Sur Twitter, elle a déclaré que Kofi Annan a voué sa vie à faire du monde un endroit plus pacifique et qu'il n'avait jamais cessé de se battre pour la dignité de chacun. L'actuel secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a souligné une force qui guidait vers le bien. « Nous n'oublierons jamais son regard calme et résolu, ni la force de ses combats », a tweeté le président français Emmanuel Macron, alors que son homologue russe Vladimir Poutine a déclaré avoir sincèrement admiré la sagesse et le courage du diplomate. La chancelière allemande Angela Merkel a, elle, insisté sur la voix de Kofi Annan qui va beaucoup nous manquer à une époque où la recherche en commun de solutions aux problèmes mondiaux est plus urgente que jamais, tandis qu'Amnesty International a salué un champion de la justice, de la paix et de la dignité.
Cameroun, le président camerounais Paul Biya est le seul responsable du conflit dans les régions anglophones du pays. C'est ce qu'a affirmé dans un entretien à l'AFP Joshua Ossi, candidat du principal parti d'opposition à la présidentielle d'octobre. C'est la première fois que Joshua Ossi se présente à ce scrutin pour le Social Democratic Front SDF, principal parti d'opposition qui était jusqu'alors représenté par John Fundi, son leader historique. Si le président de la République, commandant en chef des forces armées, envoie ses troupes tirer sur des Camerounais, c'est lui seul le responsable, a déclaré M. Ossi au siège de campagne du SDF.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Tchad voisin, le gouvernement a mobilisé les forces de sécurité pour déloger immédiatement des provinces du Tibesti et du Bata, situées dans l'est du pays, les orpailleurs installés dans cette région depuis plusieurs années. La décision a été prise après l'attaque qui ont perpétré des rebelles tchadiens contre les forces gouvernementales le 11 août. De N'Djamena, André Kodmajinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point.
Après l'ouverture d'une information judiciaire contre X pour fait de terrorisme par le procureur de la République suite à l'attaque du 11 août 2018, attaque revendiquée par le Conseil de commandement militaire pour le salut de la République, le gouvernement passe à une vitesse supérieure. L'ordre a été donné à toutes les forces de défense et de sécurité de déloger sans ménagement ces orpailleurs clandestins et de brûler leur matériel, informe le patron de la sécurité publique. Ces orpailleurs sont-ils complices de l'attaque du 11 août dernier pour mériter ce sort? Le ministre de la Sécurité publique Ahmad Mahamad Bachir répond.
Ils constituent un réservoir de recrutement pour les mercenariats. Je dirais eux-mêmes, ils sont auteurs parce que dans leur aventure ambiguë, il y a des gens qui gagnent de l'or, qui rentrent tranquillement à la maison, et il y a d'autres qui ne gagnent pas, eh bien, on la rôle de l'autre côté. Dans tous les cas, c'est des aventuriers. Ils seront traités comme tels. Des trafiquants d'or, des trafiquants de drogue, des voyous de la République qui sont là-bas, et vous pensez qu'il faut les caresser au sens de leur poil? Jamais ça.
Le député de l'opposition de la province du Bata, Rakis Ahmad Saleh, s'insiste surge contre cette déclaration. Il demande par ailleurs au gouvernement d'organiser ce secteur afin de booster l'économie nationale.
Je condamne vigoureusement la déclaration du ministre de la Sécurité, une déclaration de guerre qui vise la répression systématique d'une population innocente. Cette gangrène des rebelles, ils ont commis leur forfait et je crois qu'ils sont répartis dans leur base. Donc, nos forces de défense et de sécurité doivent les affronter là où ils sont. L'activité d'orpaillage, le code minier le permet. À ce titre, le gouvernement doit plutôt organiser le secteur pour que les retombées soient bénéfiques à notre pays, surtout avec la conjoncture de la crise actuelle.
Pour Youssef Abassala, ministre des Mines, du Développement Industriel, le gouvernement a tenté de régler ce secteur par le passé, mais sans succès compte tenu de l'afflux massif de Tchadiens et même des étrangers dans la zone à la recherche de l'or. Selon lui, cette situation ne sera réglée que par l'application du code minier. Le député de la majorité présidentielle du département du Tibesti-Ouest, Djidi Alaï Mahamad, se réjouit de la décision du gouvernement.
Depuis 2013, nous avons constaté que les orpailleurs créent beaucoup de problèmes. C'est pourquoi nous avons demandé de faire partir tous ces orpailleurs dans toute la région Tibesti. Mais malheureusement, le gouvernement n'a pas pu faire et ça a continué jusqu'à aujourd'hui 5 ans. Je pense que si le gouvernement a aujourd'hui décidé de faire évacuer ces gens, il a ses raisons.
Aussitôt dit, aussitôt fait. Attaqués par les forces du 3e degré, des milliers de véhicules de ces orpailleurs, surtout les étrangers venus de l'Afrique de l'Ouest, traversent déjà la frontière Tchad-Soudan. André Kodmadingar Ndjamena, VOA Afrique.
Ebola en RDC, 49 morts, tel est le tout dernier bilan des victimes de la maladie hémorragique dans l'est du pays. Un chiffre qui augmente régulièrement depuis 18 jours. La plupart des 49 décès ont été enregistrés à Mangina, à 30 km au sud-ouest de Beni, d'où est partie l'épidémie. 3 décès ont été aussi enregistrés en Ituri, une province voisine. 2157 personnes sont désormais sous surveillance car elles ont pu être en contact avec le virus selon le ministère congolais de la Santé. L'Organisation mondiale de la Santé s'attend à plus de cas. Pour faire face à cette situation, la vaccination est utilisée comme lors de la dernière épidémie qui a touché la province de l'Équateur dans le nord-ouest du pays qui avait fait 33 morts. La fin de cette épidémie avait été annoncée le 24 juillet dernier. Conflit en Afghanistan maintenant, le président afghan Ashraf Ghani a proclamé dimanche un cessez-le-feu de 3 mois avec les talibans à condition que ceux-ci interrompent également les combats après une récente poussée de violence dans le pays. Les précisions de Jean-Roger Bion.
J'annonce à nouveau un cessez-le-feu à partir de ce lundi, peu avant l'Aïd al-Adha, la fête musulmane du sacrifice, jusqu'à l'anniversaire du prophète le 21 novembre, à condition que les talibans fassent de même, a lancé le président Ghani lors d'une intervention télévisée à l'occasion du jour de l'indépendance nationale. Dans des communiqués séparés, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo et le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg ont dit soutenir cette offre de cessez-le-feu. Il n'y a pas d'obstacle pour les pourparlers. Le temps de la paix est venu, a déclaré M. Pompeo à l'égard des talibans. Nous restons prêts à soutenir, faciliter et participer à des négociations directes entre le gouvernement afghan et les talibans, a-t-il ajouté. Un premier cessez-le-feu de quelques jours avait été déclaré entre les deux parties en juin dernier pour la fin du Ramadan. L'administration afghane a supprimé tous les obstacles à la paix après avoir consulté dignitaires religieux, partis politiques et sociétés civiles, a fait remarquer M. Ghani. Le chef de l'État afghan n'a toutefois pas mentionné le groupe État islamique dans son annonce de cessez-le-feu, bien que ce groupe soit à l'origine de la plupart des attaques les plus meurtrières contre les civils cette année.
Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. www.voaafrique.com.